À 19h04, on vous souhaite un excellent début de soirée. Est-ce qu'il fait beau à l'extérieur, n'ayant pas de fenêtre? Je vais demander à Ray. Bonsoir, Ray. Comment ça va?
Bonsoir, Mario.
Je suis vraiment content de te voir. Dis-moi, est-ce qu'on a besoin de nos lunettes de soleil encore à cette heure-là?
Non, on va avoir besoin d'un parapluie, je crois.
Ah oui?
Ce soir, ouais. Bon, ouais. Ça commence à être gris.
On est dû. Comme dirait l'autre, hein? Ouais. On est dû. Bien content d'amorcer une nouvelle saison. Je sais que t'es pas vraiment disparu des ondes pendant l'été, que les auditeurs ont eu le privilège de t'entendre dans des conversations avec Jérémy puis avec Derek. Et c'est tant mieux pour nous tous. Ce soir, avant d'entrer dans le sport business proprement dit, parce que c'est large en ce qui me concerne, là, le sport et les affaires. Et comme ancien dirigeant d'équipe professionnelle, je lis beaucoup de commentaires en réaction à ma question du jour. Je vais donner les résultats du sondage tout à l'heure par rapport au fait que est-ce que si vous étiez dirigeant des Leafs de Toronto, vous aimeriez ça choisir vous-même votre prochain capitaine ou que ce soit les joueurs qui votent. T'as été membre de la haute direction du Canadien, même avec les Alouettes, je sais pas si tu as eu le temps de te prononcer sur des leaders dans l'équipe. Mais qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que c'est important pour une organisation de sport d'avoir un capitaine ou c'est rien? Il y a du monde qui me dit, voyons, c'est pas important, on fait un plat avec ça pour rien.
Je pense pas qu'il faut en faire un plat. Je pense que ça a ses avantages, Mario. Le sport a évolué beaucoup, la business du sport évolue, les équipes évoluent. Il y a une certaine maturité aujourd'hui qui est différente de celle de 1978, par exemple. Le rôle du capitaine est différent. Je pense que les coachs, écoute, à l'époque, dans les années 70, 80, 90, il y avait un coach, deux coachs, trois coachs. Là, t'en as 5-6 coachs par équipe. Les coachs ont un rôle à jouer dans le vestiaire aussi pour guider ces joueurs-là. Mm-hmm. Ça dépend de la chimie, la composition de l'équipe, le genre de talent que t'as dans l'équipe, quelle sorte de leader naturel ou non que t'as. Dans le cas des Maple Leafs, c'est sûr qu'Austin Matthews, c'est un jeune leader en voie de le devenir. Là, soudainement, il arrive un Tavares, ça fait deux. Puis là, t'as des Nylander, puis t'as toutes sortes d'autres joueurs de haut niveau dans cette équipe-là. T'as un coach qui est déjà lui-même assez dynamique et féroce, si on veut. Là.
Capitaine lui-même, dans un sens. Comme on disait de Michel Therrien, qu'il était le leader de son équipe.
Absolument. Puis là-dessus, alors, est-ce que les joueurs doivent choisir? J'entendais Paul tout à l'heure en parler, dire oui, c'est sûr que c'est démocratique, c'est un processus, les joueurs doivent être impliqués. Oui, mais moi, d'un autre côté, je te dis, c'est pour ça qu'il y a 3-4 coachs pour bien sonder le terrain. Ils ont assez d'expérience eux-mêmes pour pouvoir dire, voici qui on pense a le meilleur profil, les meilleures caractéristiques humaines pour peut-être mener ce groupe-là.
Parce que si l'organisation, exemple, la dernière nomination, Max Pacioretty, on a laissé les joueurs voter, puis je peux affirmer que les dirigeants avaient une Moses de bonne idée de comment le vote allait sortir. Alors, ils sont allés avec le vote. Maintenant, du côté de Toronto, difficile de prédire vers qui un vote tournerait, mais que Austin Matthews, publiquement, répondant candidement à une question, dise « Moi, je me sens prêt à être le capitaine des Leafs », et d'ajouter du même souffle que c'est pas si grave que ça si je le suis pas, puis l'idée, c'est lettre ou pas de lettre, c'est toutes les bonnes paroles à dire, tu te comportes comme un leader. Mais il reste que lui, là, il vient de lever la main, là.
Hein? Et je pense qu'il a bien
c'est
répondu.
C'est un piège pour les dirigeants?
Un petit peu, puis c'est un peu un piège pour les joueurs aussi. Puis c'est le public, c'est la grande consommation des médias qui demande et qui exige qu'on ait une réaction, une impression, une réponse à une question comme ça. Je pense que Matthews a bien répondu. Il n'est pas pour dire « Non, moi, je veux pas toucher à ça ». Il n'est pas pour dire non plus que c'est absolument à moi que ça devait revenir. Tu sais, à l'époque, avec les Canadiens, quand on avait Markov, Plekanec, Pacioretty et Piquet-Subban, tu sais, Subban s'est prononcé. On voyait que lui voulait peut-être le devenir. Plekanec, on savait que c'était un gars silencieux qui était peut-être pas intéressé à ce rôle-là. Et Markov, peut-être qu'il ne maîtrisait pas assez l'anglais pour pouvoir toujours bien gérer la chambre. Alors, c'était Pacioretty ou Subban. Ça a été une évidence que Subban n'allait pas le devenir. De toute façon, ils l'ont échangé par la suite. Alors, ça a tombé sur Pacioretty. Puis là, tu l'as dit toi-même, selon de bonnes sources, c'était peut-être pas le choix. Ça a peut-être pas
si
donné le
affaire,
résultat.
Il n'y en aurait pas.
Exactement.
Il n'y en aurait pas nommé.
Donc, pour ça, pour conclure sur ce dossier-là, Toronto, c'est pas nécessairement un choix qui est impératif à un si jeune âge de l'équipe qui est en pleine... En pleine éclosion, si on veut. Tu vois, il y a beaucoup.
C'était à consulter, là, Babcock et compagnie. On jase, là, des scénarios fictifs. Est-ce que tu recommanderais qu'ils adoptent le statu quo, c'est-à-dire d'attendre une autre année avant d'en nommer un? Laissez Tavares arriver, puis touchez pas à ça.
Exactement. De toute façon, il y a toujours un plan B, c'est John Tavares. C'est un ancien capitaine pendant de nombreuses années avec les Islanders. Alors, on sait que lui est compétent en la matière. Mais peut-être pas pour. Tu sais, chambranler le bateau un peu, là, dérailler le train, là, j'attendrai peut-être un an. Mais ça, Babcock, Brendan Shanahan, ont assez d'expérience pour réfléchir à ça.
Dans le même ordre d'idées, peut-être que, je ne sais pas si la question s'est posée à l'intérieur de l'organigramme du Canadien avec le nouveau responsable des communications, le nouveau VP Paul Wilson, je ne sais pas si c'est un Marc Bergevin ou un Claude Julien, ne serait-ce que dans une discussion à bâton rompu, est-ce que ça se fait d'enlever le C au capitaine à Montréal quand tu sais que c'est écrit dans le ciel qu'il finira pas l'année ici?
T'sais, encore une fois.
La parenthèse, c'est que Weber n'est pas prêt à jouer là. Ouais. Parce que c'est lui ton alternative, mais je te laisse répondre.
Ben, t'sais, moi, je trouve que ça a été pas bien
Qu'est-ce
géré.
Qu'est-ce que t'aurais répondu?
C'est pas bien géré, ce dossier-là. Pacioretty, là, il est comme absolument échangeable. C'est juste une question de temps. Imagine comment lui se sent à travers tout ça. Comment il vit ça, ces moments-là.
Il va t'sais, jouer pour lui puis son contrat.
Ouais, ouais, c'est sûr. On le sait. Puis, tu sais, c'est là que des fois, le côté humain est tassé complètement. Pacioretty, c'est un gars qui a rendu des fiers services aux Canadiens. Il en a marqué une tonne de buts. Il n'y a pas un joueur dans l'histoire des clubs depuis 5 ans, là, qui en a marqué autant que lui. Puis là, tu sais, OK, il n'a pas tout à fait les bonnes qualités de leader. On aurait peut-être dû le percevoir à l'époque, ça, tu sais, au lieu de lui donner quelque chose qu'il n'était pas prêt à gérer lui-même. Ah, je comprends pourquoi.
Mais c'était... l'année avant qu'il l'ait, il faisait toutes les bonnes affaires.
Oui, oui, exactement.
Fait que là, le monde autour se dit, mais c'est parce que la vie, ça change, les gens changent voilà, d'année voilà. en année.
Alors, l'enlever, est-ce que si on y dit, écoute, Max, peut-être que ça t'a mis trop de pression, on l'enlève, mais on te garde comme leader de notre équipe, on a besoin que tu aies 35 buts par année, puis on va te donner un gros contrat, ça serait peut-être de quoi pour y en faire marquer 40. Tu sais, je sais pas, il y a bien des possibilités.
C'est pour ça là. Que je me garde une porte ouverte, parce Absolument. Que tu le sais jamais, il y a de l'humain, puis San Jose, il l'a fait. Tu vas me dire, San Jose, c'est pas Montréal, mais ils l'ont fait pas une fois, ils l'ont fait deux fois, puis ils ont gardé les gars dans l'équipe les deux fois, Patrick Marleau et Joe Thornton.
Absolument, puis là-dessus, ça, c'est un bon exemple. Parce que ça n'a pas besoin de Montréal. Tout se passe pas à Montréal, parce que Montréal, c'est une ville de hockey depuis 100 quelques années. Là. Non, non, non. Il y en a de la pression dans d'autres villes, Mario. Et il y a d'autres situations où, dans une équipe, la chimie est fragile aussi. Il faut que tu gères ça avec maturité puis doigté. C'est pas parce qu'on est à Montréal puis il y a plus de demandes médias là, à chaque jour qu'il n'y a pas une chimie qui s'installe autour d'une équipe puis tu n'as pas de la délicatesse dans les moves. Alors, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. On va voir ce que ça va donner.
Tu me permets de compléter la discussion avec les résultats du sondage à la question aux questions Twitter au pluriel. J'en avais deux aujourd'hui. La première étant la nomination d'un capitaine est importante pour un club de hockey. Deux questions pour vous là-dessus. Si vous dirigez les Leafs de Toronto, demanderiez-vous aux joueurs de voter ou à la direction de choisir. Alors, 70 % des gens qui ont répondu disent « vote des joueurs ». 30 % disent « choix des dirigeants » sur 435 répondants en l'espace de 5 heures. Et à l'autre question, 694 réponses. Si vous dirigez les Leafs, à qui donneriez-vous le titre de capitaine? 65 % disent... Ta devinette, à qui tu penses?
John Tavares.
Les gens sont attirés par le vétéran. Et il y a plusieurs commentaires intéressants, si vous voulez voir le fil des discussions. Entre autres, pas besoin de mettre de la pression sur un jeune aussi vite. Mais en même temps, lui, il se compare à Sidney Crosby, là. Puis Crosby, Michel Therrien dans le temps, puis les Penguins de Pittsburgh,
ils n'ont pas niaisé
bien longtemps.
Connor McDavid.
Un autre exemple.
Alexis Lafrenière.
Fait que là, s'ils donnent pas... Là, les Leafs vont se faire accuser. Là, ils vont entretenir la marotte qu'il y a une bisbille entre Babcock et Matthews. Fait que c'est là que tu vois que dans un gros marché, tu gères le sport, mais tu gères le marché aussi, absolument, Ray. Puis il faut que les gens aient la couenne dure parce que c'est pas vrai que ça leur fait rien de n'entendre parler puis d'entendre les commentaires. Ça les touche tous.
Non, non, non. Et là-dessus, on est d'accord qu'une décision de même est beaucoup plus. Elle a beaucoup plus d'impact dans un marché comme Toronto-Montréal
ben oui.
qu'à San Jose. Mais c'est quand même un club de hockey à San Jose pareil. Puis il y a des joueurs qui ont leur carrière, leur enjeu, leur contrat, leur
ça
leadership.
Ça froissait des égos.
Ça froissait des
oui.
égos, bien c'est sûr. Alors peu importe l'équipe, peu importe le niveau,
ben oui,
ça se fait pas facilement.
L'humain, il est touché. Là. Peu importe où t'es, puis t'as bien raison. C'est pas avec les spectateurs que les gars vivent. C'est dans le vestiaire, puis ça laisse des traces. Ouais. Voilà donc pour cet aspect-là de notre discussion ce soir. Tu m'arrives avec plusieurs sujets fort intéressants encore une fois. Merci tout le monde d'avoir participé aux questions sondages. Donc, Tavares et vote des joueurs. On verra ce que ça va donner. Où est-ce que tu m'amènes dans un premier temps avant qu'on s'arrêtera pour une pause tantôt, mais on a le temps de tout de suite attaquer un des sujets.
Un des gros sujets que je voulais te parler, Mario, parce que tu sais, j'essaie toujours de diversifier un peu le contenu puis d'aller oui. large dans le monde entier. Le premier sujet qui m'interpelle là, cette semaine, c'est l'annonce de la Liga en Espagne. C'est la ligue la plus prestigieuse de football, c'est-à-dire soccer, dans le monde entier. C'est certainement égal à la Premier League en Angleterre. Il y a un petit peu plus d'argent en Angleterre, mais il y a souvent des plus grandes vedettes en Espagne. Et les deux géants du monde du soccer sont dans la même ligue, Real Madrid et FC Barcelone. Oui, certains vont contester, vont dire, ben écoute, Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea, qu'est-ce que t'en dis? Ce sont tous des mastodontes. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pour la première fois, après avoir vu la NBA jouer des matchs depuis 1990, matchs réguliers de la saison régulière, ou la NFL qui va à Londres depuis des années, Mario, bien là, c'est la Liga qui va emmener des matchs réguliers de leur championnat d'Espagne, mettant en vedette au moins Real Madrid, Barcelone ou Atlético Madrid comme un des opposants pour une entente de 15 ans. Les 15 prochaines années, aux États-Unis et éventuellement au Canada, on va pouvoir assister à un match de saison régulière de la Liga d'Espagne qui va déplacer deux équipes en voyage, comme nous, on est habitué de le faire avec
comme
nos équipes.
Comme le fait. Puis...
En Chine, et en Suède, et en Finlande, oui, et en République tchèque. Oui. Et ça va commencer dès 2019. Alors, ça démontre encore une fois l'ouverture d'esprit des ligues du monde. Commence à comprendre que le marketing, c'est mondial, et que l'opportunité est mondiale, Mario. Que la Terre est ronde, c'est pas plat, puis tu peux faire le tour et profiter de
rayonnement. Il n'y a plus de frontières.
Exactement. Le rayonnement de ta marque, le Real Madrid, ça vaut quelque chose au Canada et aux États-Unis aussi. La même raison pourquoi les Yankees de New York valent quelque chose au Japon ou en Amérique latine. Ça, c'est ce que je pense aujourd'hui la planète a compris. La F1 existe dans le monde entier. Le ATP, la WTA.
Est-ce qu'ils ont eu champ libre pendant longtemps, eux autres? Ils devaient se dire, je sais pas. Mais il y a des dirigeants du golf ou du tennis, puis la fin, ils devaient se dire, hey, ça dort-tu au gaz, les boys?
On a accès à la planète au complet, puis tout le monde reste dans leur propre pays. Mais là, c'est fini. C'est fini. Et quand tu vois la Liga le faire, tu sais très bien que la Premier League va le faire. Tu sais très bien que la Serie A en Italie va
toutes
le faire.
Toutes les
aussi.
Ligues font.
Toutes les grandes ligues qui ont un produit. Imagine, là, emmener Juventus puis Ronaldo en Amérique.
Ça, c'était ma sous-question, parce que, bon, tu l'amènes maintenant, mais quand tu positionnes les équipes, les plus grosses franchises, les équipes qui valent les plus chers, là, les monuments. Mais qu'est-ce que Juventus représente dans le portrait du foot mondial maintenant avec l'acquisition de Ronaldo? Qu'est-ce que ça signifie? Où est-ce que ça amène la Juventus et l'Italie dans tout ça?
Bien, soudainement, là, tout a changé en Italie cet été au moment où Ronaldo a annoncé qu'il s'en allait à Juventus et qu'il quittait le Real Madrid. Et quand je dis tout a changé, Mario, sur la bourse, le marché boursier, la Juventus a augmenté immédiatement. Dans l'espace de 24 heures, ils ont vendu pour des dizaines de millions de dollars de chandails. L'équipe, maintenant, est suivie par tout le monde en Italie parce que Ronaldo, il n'y a pas un athlète sur la Terre plus populaire avec 335 millions d'abonnés de médias sociaux à tous les niveaux. Là, Ronaldo est excessivement populaire dans tous les pays du monde. Alors, les gens vont suivre la Juve qui était peut-être toujours reléguée derrière l'Internazionale de Milano, AC Milan, par exemple, AS Roma, et ainsi de suite. Mais là, la Juve a les droits sur Ronaldo. Ça va être une épopée commerciale comme on a rarement vu. Et eux aussi vont pouvoir profiter de l'arrivée d'un gars encore au sommet de son art dans leur ligue pour rehausser le niveau de la ligue.
C'est fort intéressant, en tout cas, et ça nous indique que c'est difficile de faire des prédictions sur où les prochains gros joueurs iront jouer. Est-ce que Lionel Messi, un jour, tu sais, va venir, je sais pas, lequel premier grand joueur encore capable de contribuer viendra jouer en MLS? On a des Ibrahimovic, on a des Drogba, puis ça s'en vient de plus en plus, des Villas, qui vient d'arriver, ben, Rooney également.
Wayne Rooney, puis tu vois l'impact qu'il y a avec DC United, c'est quelque chose, c'est très positif. Alors, c'est sûr qu'on veut, mais quitter Real Madrid pour aller à Juventus, ça, faut le faire. Parce que c'est dur de trouver quelque chose de plus gros sur la planète soccer que Real Madrid. Et lui, il le fait encore à la fleur de l'âge. Alors, il va marquer des buts pour la Juventus, il va vendre des billets, il va vendre des chandails, il va rendre l'équipe plus moderne.
Ray, on s'arrête le temps de quelques messages. Et au retour, tu vas nous parler des investissements majeurs en Alabama dans le système sportif universitaire. Mais il y a d'autres côtés à la médaille de ça. Il n'y a pas rien qu'un bon côté. C'est quasiment indécent. Est-ce que c'est au détriment de quelqu'un? Au profit de qui exactement? Et aussi du baseball majeur qui déploie de nouveaux efforts de marketing pour se reconnecter peut-être avec la base. Alors, restez avec nous. Ray Lalonde est là pour la chronique Sport Business. On vient dans un instant.